Vous êtes sur RTL.
En tant que père de victime, mon souhait est que Guy Georges ne sorte jamais de prison. Et je pense que c'est le cas de toutes les autres familles de victimes.
Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir dans l'heure du crime, avec le visage d'un homme et un nom qui symbolise encore aujourd'hui le crime absolu. Guy Georges, que l'on surnommait parfois le tueur de l'Est parisien. Le 5 avril 2001, Guy Georges était condamné à la prison à perpétuité pour les viols et les meurtres de 7 jeunes femmes dans la capitale. La cour d'assises avait assorti cette condamnation d'une peine de sûreté de 22 ans de détention. Si nous reparlons ce soir de Guy Georges, c'est que ce délai d'incarcération, c'est 22 années incompressibles. Ce délai est aujourd'hui écoulé. Depuis le mois de mars, Guy Georges peut présenter une demande de libération conditionnelle. La loi le lui permet. Théoriquement, il pourrait donc recouvrer la liberté. Je dis bien théoriquement, car nous allons le voir avec nos invités que ce chemin qui mène de l'ère carcérale à l'ère libre n'est pas si facile à parcourir, surtout quand on s'appelle Guy Georges et qu'on affiche le plus sombre des parcours criminels. Ce soir, dans l'heure du crime, nous allons donc reprendre la trajectoire de Guy Georges, la construction d'un tueur, cet homme qui, à l'âge de 17 ans, interrogé pour la première fois par un psychiatre pour des violences, déclarait déjà que quelque chose lui échappait dans sa vie et qu'il ne pouvait pas se contrôler. Une vie sous le sceau de la violence, des viols, des meurtres, des séjours incessants en prison. Dossier qui pèsera évidemment des tonnes devant les juges, les experts, si le condamné, âgé aujourd'hui de 57 ans, se décide à demander sa sortie de prison, tout comme pèsera et pèse déjà les voix des familles des victimes de Guy Georges, pour qui les années n'ont rien effacé. Le seul fait d'imaginer une possible sortie de prison de leur bourreau leur est tout simplement insupportable. Guy Georges, une vie de violence et de meurtre, peut-il sortir de prison ? C'est l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
Ce soir, dans l'heure du crime, le cas Guy Georges, tueur et violeur en série, après 22 ans d'incarcération, va-t-il demander sa liberté en dépit d'un terrifiant dossier ? Ce 24 janvier 1991, peu avant 23h30, Pascale Escarfaille, 19 ans, étudiante à la Sorbonne, rentre chez elle, rue Delambre, dans le 14e arrondissement de la capitale. Elle n'a pas fait attention à cet homme qui lui emboîte le pas, se glisse derrière elle, en silence, la dépasse sans se presser dans la cour de l'immeuble, histoire de la rassurer. Elle le retrouve sur son palier, il l'attend, lui place un couteau sur la gorge, sort un rouleau de sparadrap, lui attache les poignets, la pousse dans l'appartement, déchire ses habits et la viole. Quand il lui plante un premier coup de couteau dans la gorge, il raconte que l'étudiante lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais ? Tu me tues ?» Pascale Escarfaille, première jeune femme tuée par Guy Georges. À cette époque, Guy Georges est en permission de sortie de la prison de Caen. Il y purge une peine de 10 ans de réclusion pour viol avec violence. Il réintègre sa cellule comme si de rien n'était. Le 4 avril 1992, il est libre, de retour à Paris, livré à lui-même. Il traîne dans des squats. Seulement 18 jours après sa libération, il repère une jeune femme, Éléonore. Une silhouette comme celle de Pascal qui lui plaît. Elle aussi, il la suit, la plaque contre le mur dans le hall de l'immeuble, un couteau sous la gorge. Il lui entaille le menton et Léonore aura plus de chance que Pascal. Elle crie, son agresseur s'enfuit, rattrapé, condamné à 5 ans de prison pour violence volontaire. Le tribunal ne retient pas alors le caractère sexuel. Un peu plus d'un an plus tard, il est libéré. La course au viol et au meurtre reprend de plus belle. 2 mois après sa sortie, 7 janvier 1994, Cathy Rocher, 28 ans, assistante en marketing, repérée alors qu'elle entre dans un parking souterrain, violée et égorgée sur la banquette arrière de sa voiture. Il y aura ensuite Elsa, Agnès, Hélène, Magali, Estelle, des jeunes femmes entre 19 et 33 ans. 6 ans de meurtre jusqu'au 16 novembre 1997. Entre-temps, il aura violé 6 autres femmes jusqu'à ce que la police arrête enfin ce chasseur solitaire qui écrit des chansons rangées dans une chemise portant l'inscription « Joe the Killer, Joe le Tueur ». Maître Frédéric Ponce, bonsoir.
Bonsoir.
Premier invité de l'heure du crime, vous êtes l'avocate de Guy Georges, vous l'aviez défendu avec Maître Ursulet à son procès et vous continuez à le représenter. On va revenir bien sûr sur ce parcours criminel, même si on sait aujourd'hui beaucoup de choses sur Guy Georges, parcours qui nous glace toujours d'effroi, et puis évidemment sur la question d'une éventuelle demande de libération conditionnelle. Maître Ponce, comment expliquer cette propension chez Guy Georges à récidiver encore et encore, cette soif meurtrière ?
Alors, permettez-moi tout d'abord une correction. J'interviens dans votre émission non pas en qualité d'avocat actuel de Guy Georges, mais pour l'avoir défendu devant la cour d'assises et il y a quelques années. Voilà, je ne suis pas actuellement l'avocat de Guy Georges. Je ne me permettrai pas d'intervenir dans ce cadre-là. Comment vous avez utilisé, pour répondre à votre question, vous avez utilisé tout à l'heure un terme, la construction d'un tueur. Et je crois que c'est un terme parfaitement exact. Guy Georges, le docteur Zaguri en parlera certainement, évidemment, beaucoup mieux que moi, a été diagnostiqué psychopathe. Et on ne devient pas psychopathe comme ça du jour au lendemain. Mmh. On est constitué psychopathe. Et je pense que quand on revoit tout le, j'allais dire, le parcours personnel de Guy Georges, la manière dont il a été abandonné.
On va bien sûr y revenir sur cette enfance.
Adoptable, hein. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi, je veux dire, tout ça a une explication.
Daniel Zaguri, bonsoir.
Bonsoir.
Deuxième invité de l'heure du crime, psychiatre des hôpitaux, expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Vous avez fait partie du collège d'experts qui ont longuement examiné Guy Georges. J'ai envie de vous poser une question presque banale, mais est-ce que Guy Georges est un tueur en série comme les autres, comme un Michel Fourniret que vous connaissez aussi ?
Aucun tueur en série n'est comme les autres. Ils ont tous un parcours absolument singulier. Néanmoins, on repère chez eux un certain nombre de traits, un certain nombre de dynamiques criminelles qui font qu'on peut effectivement, et c'est son cas, les catégoriser comme tueurs en série.
Et est-ce que ces caractéristiques criminelles s'effacent ou bien elles sont intrinsèquement liées à l'individu toute sa vie ?
Vous posez une question, effectivement, qui tourmente l'opinion publique, mais je crois qu'il faut y répondre de façon pragmatique. Oui, on a vu des sujets dont les parcours criminels s'achevaient. Oui, on a vu des sujets dont le parcours criminel continuer jusqu'à ce qu'il soit appréhendé. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de vérité absolue en la matière.
Alors, le cas Guy Georges, tueur en série sur lequel des psychiatres, des juges vont peut-être devoir à nouveau se pencher si un jour prochain une demande de libération conditionnelle est formulée. Eh bien, à ces spécialistes, il va falloir passer tout en revue, revenir sur ces crimes barbares et puis revenir aussi sur un passé bien plus lointain, celui des premières années et des premières violences. Guy Georges, après 22 ans de détention, peut-il retrouver la liberté ? C'est ce soir le dossier de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
20h, 21h,
l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Heure du crime consacrée ce soir au tueur et violeur en série Guy Georges. Après 22 ans de prison, il est apte à faire une demande de sortie, mais à 57 ans, son profil reste l'un des plus sombres de l'histoire criminelle. Guy Georges est né le 15 octobre 1962. Pour l'état civil, il s'appelle alors Guy Georges Rampillon, du nom de sa mère, hôtesse dans un bar de nuit à Marly-le-Roi, dans les Yvelines. Son père est un GI noir américain, George Cartwright, marié, rentré aux USA juste avant la naissance et qui ne se manifestera jamais auprès de ce fils qu'il a oublié. 4 ans plus tard, sa mère l'abandonne. Guy Georges Rampillon va alors être adopté, changer d'état civil, de lieu de naissance et de nom, devenir tout simplement Guy Georges. C'est donc dans ses années d'enfance et d'adolescence en famille d'accueil que se cachent sans doute des clés pour comprendre la construction d'un tueur et violeur en série. La famille Morin, la famille d'accueil de Guy Georges, 14 frères et sœurs, habite un petit village de l'Anjou. À l'entrée de l'adolescence, il se révèle violent, animé de pulsions incontrôlables. À 14 ans, il bondit sur sa sœur préférée Roselyne, qui est trisomique, et tente de l'étrangler. Elle se débat et s'échappe. Christiane, une autre sœur, va subir le même sort et elle aussi réussir à s'extirper de l'emprise de son frère. En 4 ans, Guy Georges, devenu fugueur, voleur de moto, arracheur de sacs à main, agresse 5 jeunes femmes. À presque 18 ans, il écope de 9 mois de prison. Peu après sa sortie, novembre 1981, il commet un viol et surtout sa première tentative de meurtre. Nathalie, 18 ans, le supplie d'arrêter en lui disant qu'elle est enceinte, ce qui est vrai. Mais Guy Georges ne s'arrête pas, il lui donne des coups de couteau dans le ventre. Nathalie sera laissée pour morte, s'en sortira, le bébé aussi. Guy Georges ne sera ni identifié ni arrêté. Nathalie ne le reconnaîtra que 16 ans plus tard, après son arrestation, après avoir vu le visage de celui qu'on appelle le tueur de l'Est parisien dans les journaux et à la télé. Daniel Zaguri, je reviens vers vous, psychiatre, et vous avez étudié le cas Guy Georges, vous avez été en contact avec lui et en face à face avec lui. Alors évidemment, cette jeunesse et cette aptitude précoce au crime, on a le sentiment que la violence, la volonté de faire mal, de tuer, a toujours habité Guy Georges. On peut dire les choses comme ça ou pas?
Ou
c'est un raccourci.
On va essayer
précipité.
De nuancer. J'étais pas tout seul dans cette expertise. Mmh. Il y avait Michel Dubec,
qui
était jeune psychologue, regretté, et Henri Grinspan. Et c'est Henri Grinspan qui a étudié l'enfance de Guy Georges, qui a étudié tous les documents et qui a fait un travail absolument remarquable. Alors, en effet, Guy Georges, on a l'impression qu'il y a un crescendo criminel et que, au fond, ces premiers passages à l'acte intrafamiliaux vont être le brouillon de ce qui va advenir plus tard. Il y avait effectivement, il le dit lui-même, j'ai toujours été violent et j'ai toujours manqué de quelque chose. Donc il est relativement lucide sur ce qu'il a été, et très vite, en regardant la télévision, les dessins animés, il s'est pas identifié à un héros positif, il s'est identifié à Joe l'Indien, hein, le méchant de Tom Sawyer.
Celui qui se cache et qui traque, etc.,
voilà.
qui est dans l'ombre.
Donc il y a en effet une destructivité, une violence en lui, une haine de la société, pour reprendre ses propres termes, qui sont présents très tôt et qui sont évidemment au cœur de la dynamique criminelle.
Alors, au cœur de la dynamique criminelle, il vous a dit, Daniel Zaguri, un jour, lorsque vous étiez en face de lui, détrompez-moi si c'est faux, mais en tout cas j'ai lu ses propos, il vous a dit, bizarrement, après son premier meurtre, bizarrement, après la panique, ça ne m'a rien fait.
Oui, alors il est étonné lui-même. Il est... Parce que un tueur en série, et c'est le cas de Guy Georges, qui tue pour la première fois, ne sait pas qu'il va devenir un tueur en série. Il n'a aucune expérience criminelle. Et il pense que ça va se voir, hein, comme Pinocchio, son nez va s'allonger. Et non. Et là, il fait cette expérience de pouvoir cacher cet acte aux autres. Et il m'a dit, ce que je pensais, c'est t'es fort d'avoir fait ça. Hein? Donc, et là, on voit l'un des premiers effets de ce qu'on appelle le clivage, et qui fascine d'ailleurs l'opinion publique, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire cette capacité de masquer sa destructivité et d'avoir au fond une personnalité apparente assez banale, comme d'ailleurs ses compagnes vont le dire, parce qu'elles sont toutes tombées de l'armoire.
Alors vous dites, docteur, et c'est important, c'est fort de faire ça, donc il s'auto-félicite, il s'auto-congratule, et c'est une espèce de trophée aussi, le meurtre, déjà, non?
On va dire qu'il est étonné lui-même que son acte puisse demeurer caché.
C'est ça. Maître Frédéric Ponce, vous étiez donc l'avocate de Guy Georges lors de son procès aux Assises. Vous ne le défendiez pas, évidemment, lors de ses premiers crimes, de ses premiers forfaits, on est d'accord. Hein.
Non.
La première fois que vous avez pris connaissance de ce dossier et de son passé qui donne le vertige, est-ce que ça a été une surprise pour vous? de voir tout ce passé violent de votre client ?
Vous me permettrez surtout de revenir sur les premières violences qu'on lui a infligées. Parce que c'est bien beau de parler de cette capacité de Guy Georges à tuer.
Et à faire le mal,
oui. Et à faire le mal, de dire qu'il était violent. Le premier acte de violence qui est répertorié, il est commis à l'âge de 14 ans. Donc on ne peut pas dire, déjà tout petit, il était violent. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il est le fruit d'un adultère. Il a été abandonné par sa mère qui avait déjà abandonné un premier enfant qui était élevé par ses grands-parents, enfin par ses parents, les grands-parents de Guy Georges n'ont pas voulu l'élever. Donc il a été abandonné par sa mère, il a été rejeté par les grands-parents maternels, et il s'est retrouvé dans cette famille d'accueil où il y avait plus d'une dizaine d'enfants.
14.
Où Madame Morin très certainement l'aimait beaucoup, mais comme ça a été vu quand même par les psychiatres, l'a sans doute chosifié parce que c'était le petit garçon noir et le seul petit garçon noir qui était dans une fratrie de filles. Donc, et comble de tout, quand la mère finit par se désintéresser totalement, que la DAS finit par s'en occuper, il est adoptable uniquement à l'âge de 4 ans, et c'est à l'âge de 6 ans qu'on va lui changer son identité. Mmh. C'est-à-dire que non seulement on va lui dire « tu t'appelles plus Rampillon, tu vas t'appeler Guy Georges », mais en plus on lui a changé son lieu de naissance. Et un de vos confrères, si je ne m'abuse, dans ce rapport, ont fait état d'une sorte de meurtre administratif qui a été commis sur la personne de Guy Georges très tôt. Donc, il faut quand même, je pense, ça me paraît important de rappeler tout ça, même si on peut me dire qu'il y a des tas de garçons et de filles qui sont adoptés et qui ne deviennent pas meurtriers, j'en conviens. Mais ne caricaturons pas les choses.
Guy Georges, qui, après plus de 20 ans de violence et d'ultra-violence, des attaques, des viols, 7 jeunes femmes tuées, Guy Georges va être jugé. Ce sera en 2001, procès qui sera celui des aveux pour cet homme qui avait pourtant décidé de s'enfermer dans le silence. Le dossier Guy Georges, après 22 ans de détention, pourrait-il sortir de prison ? C'est l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Au programme de l'heure du crime ce soir, le dossier Guy Georges qui pourrait demander sa mise en liberté, la loi l'y autorise, pourrait-il sortir ? C'est une autre histoire, surtout au regard de son parcours criminel. Ce 19 mars 2001, 3 ans après son arrestation, s'ouvre à Paris, devant la cour d'assises, le procès de Guy Georges. On le photographie, il a 39 ans, il porte beau. Une apparence physique troublante car elle ne correspond pas à l'image qu'on peut se faire dans nos imaginations d'un maniaque sexuel, d'un tueur en série. Guy Georges est pourtant un délinquant pur et dur, abonné à la prison. En 1991, quand il tue Pascal Escarfaille, son premier meurtre, il a déjà 11 ans et demi de détention derrière lui. Pour les viols et les meurtres, il a fallu du temps pour l'identifier. À l'époque, le croisement des informations entre services d'enquête est compliqué, des fichiers pas encore au point et une nouvelle science, l'ADN, balbutiante. Après son arrestation, au 36 quai des Orfèvres, dans un bureau voisin de celui de Martine Monteil, la patronne de la police judiciaire parisienne, Guy Georges avoue quelques-uns de ses crimes. Mais à son procès, le tueur de l'Est parisien n'est plus du tout dans cette dynamique. Il nie, il est innocent. Ses aveux ont été extorqués. Il ne bronche pas, malgré des dépositions accablantes des enquêteurs, comme celle du commissaire Hefner de la brigade criminelle qui qualifie de crime abominable le meurtre de Pascal Escarfaille, se dit bouleversé par cette sauvagerie gratuite. Le capitaine Bécher, qui a recueilli les aveux de Guy Georges, explique comment les scènes de crime, de la première à la dernière, sont similaires. Même rituel, même organisation, l'accusé tient tête, quitte à s'enfoncer dans le déni. Il faut attendre une semaine pour que le procès change du tout au tout. Face à Elisabeth, qui l'a violée le 16 juin 1995, mais qui a réussi à lui échapper, Guy Georges craque. Oui, c'est bien lui qui a attaqué au couteau Elisabeth, oui, c'est bien lui qui a tué à 7 reprises. Le 5 avril 2001, Guy Georges est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Maître Ponce, vous étiez bien, évidemment à ce procès, vous étiez l'une des avocates de Guy Georges avec Alex Ursulet. Guy Georges va lire un petit texte en fin d'audience. Et il va dire, je le cite, « La peine qu'on va m'infliger, c'est rien. Moi, je vais m'infliger une peine. Je ne sortirai jamais de prison. Vous serez tranquille. Quoi qu'il arrive, je ne recommencerai jamais. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Guy Georges ?
On peut penser que Guy Georges, au moment... puisqu'en fait il a prononcé ça juste avant le verdict, il sait qu'il va être condamné, il sait qu'il va être condamné à perpétuité, et ça ne faisait aucun doute. Mais voilà, je pense que n'importe qui dans une cour d'assises, après ces 15 jours, 3 semaines d'audience, ne peut pas anticiper sur ce qui peut se passer après 22 ans de détention. Voilà, comme l'a dit le docteur Saguri, on a tous nos parcours, nos évolutions. Voilà, donc je crois qu'il était... Il était plus apaisé, j'allais dire, en fin de procès. Et c'est donc, c'était une déclaration d'apaisement qu'il a formulée à ce moment-là.
Parce qu'il avait dit ce qu'il avait à dire, sa vérité, et qu'enfin, on avait la clé de...
Oui, vous étiez à l'audience, de mémoire, vous étiez aux audiences. Et les audiences ont été très difficiles, puisque
très
douloureuses. Dans la première... partie, il niait. Moi, quand j'ai rencontré Guy Georges très peu de temps avant les assises, il niait. Et c'était une défense qui était totalement plaidable, car il y avait beaucoup d'incohérences. La première incohérence, c'était les fautes qui avaient été commises dans l'ADN, qui étaient gravissimes. Mmh. Donc tout ça était parfaitement plaidable. Mais en fait, à un moment donné, Guy Georges s'est pris les pieds dans le tapis, puisque sur question d'une des avocats, Solange Doumic, de partie civile, il a fait, au lieu de répondre à une question pour savoir de quelle main il utilisait un couteau, il a fait le geste terrible montrant qu'il frappait avec un couteau.
Qu'il frappait,
voilà. Et à partir de là, il a totalement changé d'attitude, mmh, puisqu'il a refusé de répondre aux questions. Et donc, c'était une façon d'avouer. Et finalement, il a fini par avouer, non pas parce qu'Elisabeth Ortega était là, il a avoué avant son arrivée, et il a avoué en répondant aux questions de mon confrère Alex Ursulet.
Docteur Zaguri, juste un mot sur ce petit mot de Guy Georges. Je ne sortirai jamais de prison, vous serez tranquille, il dit aux familles des victimes. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de Guy Georges?
Ça veut dire, je connais ma destructivité, je connais ma violence, je commence à me rendre compte du mal que je vous ai fait, et puis voilà, ça va s'arrêter là. Mmh. Je pense que c'est une parole de procès. Bon.
Alors, il vous a interpellé, Guy Georges, lors de l'audience, hein, il y a eu ce fameux dialogue, il va vous dire, vous avez dit de moi que j'étais malade, mais pas normal. C'est ça, demande-t-il. Et il poursuit, quelqu'un d'autre ici dans la salle pourrait-il ne pas être normal, mais pas malade ?
Oui,
dans le dialogue avec son psy.
C'est un dialogue absolument étonnant, puisque au fond, ce qu'il me demande, c'est est-ce que j'appartiens à la même humanité que vous ? C'est ça qu'il me demande. Et ben, je lui ai répondu oui. Et alors il y avait, je pense, un réquisitoire, enfin une partie du réquisitoire un peu malheureuse de l'avocate générale qui dit « Georges, vous êtes le diable ». Non, on ne juge pas le diable, on juge un homme. Et toute la difficulté, c'est de comprendre comment un homme peut en arriver à commettre des actes pareils. Et toute la difficulté, c'est de juger un homme.
Alors, vous aviez dit tout à l'heure qu'il était toujours très difficile de se reconnaître dans ces profils qui sont souvent changeants avec ces tueurs en série. Est-ce que le Guy Georges du procès est identique à celui que vous aviez pu examiner ou auparavant, juste avant ? Est-ce que c'est la même personne ?
C'est très difficile de répondre à cette question, parce que l'expert au procès, il a une photographie, un instantané, si vous voulez. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, il y a quelque chose qui m'a d'emblée frappé. C'est quand je suis arrivé à la maison d'arrêt de la santé, je suis tombé sur quelqu'un d'extrêmement affable, extrêmement à l'aise, très courtois, asseyez-vous, docteur. Ça m'a beaucoup frappé. Ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est nos discussions. Quand j'explore avec lui ses intérêts dans la vie, et je lui dis « Vous vous appeliez Rampillon, comme le joueur de football ?» Mmh. Et alors là, il me dit « Ah, vous vous intéressez au football ?» Et on s'est mis à parler football tous les deux. Donc, si vous voulez, il y avait une capacité rester chez lui, d'entrer dans une interactivité, et alors, bien entendu, qui coexistait avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette zone de destructivité psychique.
Cette possibilité de dialogue, un des policiers dira d'ailleurs qu'elle avait été facile et possible. 22 ans se sont écoulés, Guy Georges est aujourd'hui virtuellement apte à demander sa libération conditionnelle. Tel est le mécanisme de la loi, même si l'issue d'une telle demande, si elle était effectuée, est improbable. Guy Georges, 22 ans de prison, la période de sûreté est terminée. Quel avenir pour ce tueur en série? On en parle ce soir dans l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir à Guy Georges. 7 meurtres et davantage de viols. Après 22 ans de détention, le tueur de l'Est parisien va-t-il demander sa libération conditionnelle? Le 5 avril 2001, Guy Georges apparaît donc pour la dernière fois en public devant la cour d'assises. Ce jour-là, il est condamné à la perpétuité, peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Aucune chance pour lui d'espérer une sortie avant l'année 2020. Guy Georges retrouve donc un univers qui lui est familier, ce monde carcéral qu'il fréquente depuis l'âge de 17 ans. Justice est faite pour les familles de victimes qui connaissent le coupable. Guy Georges va peu à peu se fondre dans les décors de ses prisons successives. Il ne fait pas parler de lui, on sait seulement qu'il n'a jamais cessé d'exercer, c'est un cas récurrent avec les tueurs en série célèbres, une fascination morbide auprès de certaines jeunes femmes, du courrier et des visites. Des étudiantes seraient tombées sous son charme et ce, malgré les années passées et sa transformation physique, Guy Georges est aujourd'hui obèse. L'une d'elles, étudiante en cinéma, 22 ans, lui rendrait toutefois régulièrement visite, une fois par mois, dans l'intimité du parloir familial de la prison d'Ensisheim, en Alsace. Guy Georges aura 58 ans le mois prochain. Sa peine de sûreté de 22 ans est écoulée. La loi l'autorise donc à formuler une demande de sortie, à présenter un dossier qui lui permettrait donc de ne pas aller au bout de sa peine. En théorie, Guy Georges pourrait donc sortir un jour prochain de prison. En pratique, l'opération est autrement plus compliquée. Dossier devant le tribunal de l'application des peines, test psychologique, évaluation des risques de récidive, garantie de représentation, attestation d'un logeur, d'un éventuel employeur, autant de conditions que semble loin de réunir aujourd'hui Guy Georges. À ce jour, aucun dossier de demande de libération conditionnelle n'a été déposé, mais rien ne dit que cette démarche ne sera pas entreprise dans les semaines, les mois ou même les années qui viennent. Frédéric Ponce, vous étiez l'avocate de Guy Georges, je le répète, à son procès aux assises. Parlons très franchement, très directement, est-ce qu'il est envisageable que Guy Georges puisse sortir de prison aujourd'hui, vu son pedigree et son parcours criminel?
Il est, juridiquement, à partir du moment où la période de sûreté est terminée, il est capacité de le demander. Comme vous l'avez rappelé, de toute façon, ça voudrait dire qu'il soit à nouveau soumis à des expertises psychiatriques et qui tiendront bien évidemment compte des rapports précédents qui ont été effectués. Tout dépend de l'évolution qui a été la sienne au cours des détentions. Et puis, il faut quand même rappeler, c'est que quelqu'un qui est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, je crois que ce qui est important, et d'ailleurs c'est prévu dans la loi, et c'est même protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, c'est que toute personne doit avoir un espoir de sortie.
Une lucarne ouverte, c'est ça
Absolument. Et je crois que c'est vous, docteur Zaguri, qui avez parlé d'un epsilon, il me semble que, ou c'était dans le rapport conjoint qui a été déposé. Donc ça fait partie, j'allais dire, de notre système judiciaire, que toute personne ait la possibilité de demander une mise en liberté.
cette petite lucarne qui doit rester donc, selon vous, ouverte. Et c'est effectivement ce que vous disiez, Daniel Zaguri, dans vos rapports. Daniel Zaguri, quel est le plus difficile à appréhender pour un psychiatre lorsqu'on examine quelqu'un qui veut sortir de prison comme cela? On parle de l'évaluation de la dangerosité. Comment ça se passe? Expliquez-nous.
Alors, je crois là quand même qu'il faut éviter l'hypocrisie. Nous sommes en face d'un traumatisme national. Rappelez-vous l'ambiance au moment de la traque du tueur de l'Est parisien. Moi, j'avais deux filles adolescentes, donc...
Psychose.
On les laissait pas sortir. Bon. Et l'expérience montre que lorsque vient l'heure de la libération conditionnelle, rappelez-vous l'affaire de Patrick Henry, tout d'un coup, réémerge dans la société les émotions, mais comme si c'était hier.
On l'a vu aussi pour le docteur Roman, de la même manière.
Absolument. C'est comme si c'était hier. On a oublié que 22 ans se sont écoulés. Donc, si vous voulez, tout ça se passe dans une atmosphère d'émotions submergeant la nation. C'est quand même un cas qui a marqué l'histoire de France, négativement, dramatiquement. Et donc, on ne peut pas faire abstraction comme si quelques juges ou quelques experts allaient dire à la société, voilà, c'est moi le fusible, si jamais il y a une récidive, vous pourrez vous en prendre à moi. Ça n'a pas de sens. Je vais vous donner un exemple.
Allez-y.
J'avais été expert avec d'autres de Lucien Léger. Lucien Léger, c'était le plus vieux détenu de France. Ça faisait 40 ans qu'il était en prison. Nous avons rendu une expertise qui était une expertise très positive. Franchement, il n'y avait plus grand-chose à craindre. Nous avions émis seulement une petite réserve, qui était qu'on le laisse tranquille, qu'il ait droit à l'anonymat et que les médias ne viennent pas le renvoyer, si je puis dire, à son identité criminelle. Et donc notre rapport était positif à 99,5%. Hein. Mais les juges se sont appuyés sur ces 0,5% pour dire non, les experts ont dit qu'il ne pouvait pas sortir. Vous voyez, on n'est pas dans la rationalité.
Ouais.
L'expert psychiatre qui va l'examiner, les experts psychiatres, ils vont dire quoi? Ils vont dire, voilà comment il était en 98, voilà comment il a été dans les expertises successives, s'il y en a, voilà comment il est aujourd'hui, voilà comment il a tiré profit de son incarcération, voilà les mécanismes psychiques qui semblent avoir changé, muté chez lui, et ils vont dire quels sont les éléments de pronostic favorables, quels sont les éléments de pronostic défavorables, la conduite à tenir, mais ils vont pas dire, je vous garantis absolument que cet homme ne va jamais passer à l'acte. Ça, c'est impossible.
Maître, un petit mot, est-ce que l'opinion publique joue dans ces cas-là
Mais bien sûr, le docteur Zaguri, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Quand il dit qu'on est dans de l'hypocrisie, bien sûr, on est dans de l'hypocrisie, parce qu'après, il va falloir trouver les magistrats qui auraient le courage, à supposer qu'il y ait le rapport soit à 100% favorable, qui aient le courage d'aller contre l'opinion publique, qui déjà aujourd'hui se prononce sur une question qui en fait ne se pose pas, puisque Guy Georges n'a rien demandé.
Même si une libération conditionnelle apparaît bien lointaine, la seule idée de voir Guy Georges demander sa sortie déclenche interrogation, réprobation, inquiétude même. Comme si l'évocation du nom de Guy Georges, synonyme d'une dérive criminelle hors norme, de crimes épouvantables, suffisait, notamment auprès des familles de victimes, à faire barrière à toute sortie de prison. Le cas Guy Georges, le dossier de la libération conditionnelle du tueur de l'Est parisien, c'est ce soir dans l'heure du crime. À tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Guy Georges pourrait-il sortir de prison après 22 ans passés derrière les barreaux? C'est la question que l'on pose ce soir dans l'heure du crime et que se posent en tout premier lieu les familles des victimes des jeunes filles qui ont été violées et des 7 qui ont été tuées. Malgré les années, impossible d'oublier. Impossible pour les proches des jeunes femmes agressées et martyrisées d'imaginer Guy Georges sortir un jour de prison. La sœur d'Amélie Benadi, 22 ans, troisième victime du tueur, poignardée dans le parking de sa résidence, confiait récemment au journal Marianne. Je cite ses propos. « Je ne peux pas croire qu'il ne soit plus dangereux. Pendant toute la période où il a violé et tué, il a fait des allers-retours en prison pour d'autres faits. Et ça ne l'a pas freiné. Est-ce que 22 ans de prison l'ont fait changer ? Je ne pense pas. » Jean-Pierre Escarfaille, lui, est le père de Pascal, le premier meurtre de Guy Georges. Il vit toujours dans le souvenir de cette journée de janvier 1991 où il a appris la mort de sa fille, de ce procès où il a préféré s'absenter un moment pour ne pas voir les photos de la scène de crime. Il préside l'Association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels. Il est bien sûr opposé à la libération de Guy Georges.
En tant que père de victime, mon souhait est que Guy Georges ne sorte jamais de prison. Et je pense que c'est le cas de toutes les autres familles de victimes. Mais ce qui est important, c'est qu'il sorte de prison avec l'assurance complète qu'il ne pourra plus nuire à la société dans laquelle nous vivons. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de juges d'application des peines qui vont prendre le risque de libérer quelqu'un qui n'a apparemment pas fait beaucoup de progrès sur le plan psychiatrique. J'espère que leur décision sera négative cette fois-ci. Ce qu'il y a de certain, c'est que vous avez des gens qui sont complètement irrécupérables. Par exemple, Pierre Bodin, qui a passé une grande partie de sa vie en prison et qui, à la sortie, en libération conditionnelle, s'est mis à tuer. En général, on commence par violer et ensuite on tue. C'est ça le drame. Donc, s'il n'y a pas justement une appréciation la plus approfondie possible de la dangerosité de ces gens-là, on court à des catastrophes. Peut-être que Guy Georges ne demandera pas aussi sa libération conditionnelle, qui serait, je dirais, une preuve de courage aussi de sa part.
Daniel Zaguri, on écoute évidemment M. Escarfaille, hein, le père d'une victime, mais on comprend tout à fait ses propos et son angoisse de voir peut-être Guy Georges sortir un jour de prison. Est-ce que Guy Georges est irrécupérable ?
Alors ça, c'est la question à laquelle on peut pas répondre en tant que tel. Hein. Donc moi, ce que je retiens de ce que nous dit Monsieur Escarfaille, c'est que c'est très important de se pencher sur ces cas. C'est très important de s'y pencher avec compétence. Et vous m'avez donné l'occasion, en m'invitant, de relire pour la première fois depuis 22 ans le rapport que nous avions fait avec Dubec, Grinspan et Madame Tedjin.
C'était un rapport important. Hein.
Et je dois dire que voilà, nous avons vraiment donné le meilleur de nous-mêmes et que c'était la moindre des choses. C'était la moindre des choses. Au regard des attentes sociétales, des familles de victimes, c'était la moindre des choses de contribuer à notre niveau à la compréhension de ce qui peut conduire à de telles horreurs. Et moi, je remercie le juge Thiel et le parquet de l'époque de nous avoir permis de travailler dans des conditions tout à fait acceptables et d'avoir pu le voir à 14 reprises. Et c'est avec vraiment beaucoup de tristesse que je vous dis qu'aujourd'hui, ce ne serait plus possible.
Comment ça ?
Ou alors, ce serait possible à nos frais. Vous savez, l'administration a parfois des textes absolument ahurissants. Et donc, aujourd'hui, si les juges veulent appliquer à la lettre certains textes, une expertise psychiatrique, c'est 312 euros, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que celui qui travaille 40 fois plus, il va être payé 40 fois moins. Et là, j'aurai des exemples. Si un jour vous m'invitez, je pourrais vous les donner. Donc, aujourd'hui, nous travaillerions à nos frais. Et je peux vous dire que dans les congrès internationaux, nous sommes la risée de nos collègues. Ils se demandent comment nous pouvons travailler dans de telles conditions. Alors, nous avons la chance d'avoir un nouveau garde des Sceaux qui est avocat pénaliste. J'espère qu'il ne va pas laisser les choses en l'état.
Moi, j'espère qu'il écoute l'heure du crime et donc il vous aura entendu, Daniel Zaguri. Encore un petit mot, quelle est la difficulté, encore une fois, où se place la jauge quand on étudie la violence, la potentialité de violence de l'individu ? Comment ça se passe ? J'aimerais que vous répondiez à ça. Comment est-ce qu'on étudie si on est un individu qui a passé autant d'années en prison est encore dangereux ou pas ?
Comment était-il au moment de ses crimes. Comment a-t-il évolué? Est-ce que son économie psychique, est-ce que ça a changé ou est-ce qu'il est exactement le même? Quels sont les risques aujourd'hui? Et il est possible, je dis bien, il est possible, je n'en sais rien. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire abstraction de tout le contexte. Il est possible que les experts constatent que son évolution est plutôt très favorable. Mais jamais ils ne rendront un rapport qui dira « il ne récidivera pas ». Ça n'est pas possible. Il est tout à fait possible que les conditions qui avaient amené Guy Georges à cette violence à l'époque ne soient plus présentes aujourd'hui. Je dis bien, c'est théoriquement possible.
Théoriquement possible. Frédéric Ponce, vous étiez l'avocate de Guy Georges. Parlons très directement, est-ce que sa place aujourd'hui est en prison et uniquement en prison ? Parce qu'apparemment, c'est là où il se sent presque le mieux, j'ai envie de dire.
Je n'ai bien évidemment pas de réponse à votre question. Ce qui est certain, ça a été une des formules du rapport d'expertise à l'époque, c'était de dire que Guy Georges appartenait à l'administration. Car finalement, c'est dès le départ l'administration, la DAS, qui l'a accueilli, qui l'a recueilli, qui lui a changé son identité. Et ensuite, c'est elle, après, dans les foyers, dès qu'il a quitté la famille Morin, il est allé dans des foyers. Et ensuite, parce qu'il a commis des méfaits, il s'est retrouvé en prison. Et donc, finalement, il a passé plus de temps en prison qu'en liberté. Voilà. Quant à savoir au cours de ces 22 ans, il a évolué, nous n'en savons rien. Mais ce dont on peut être certain, pour rejoindre ce que disait le docteur Zaguri, c'est que la justice manque cruellement de moyens, nous le savons, mais les prisons manquent cruellement de moyens. Et pour qu'il y puisse y avoir des progrès, et on l'avait vu au moment de l'audience, on voyait par rapport à ce qui se faisait au Canada, il y a un travail psychiatrique qui devrait être fait en prison. Or, à ma connaissance, les prisons n'ont pas ces moyens-là. Donc on en revient toujours, dès qu'on parle de justice, dès qu'on parle de prison, on en revient au nerf de la guerre, c'est-à-dire au budget.
Vous qui connaissez très bien Guy Georges, est-il selon vous susceptible de vouloir sortir, de demander, de faire une demande, même si elle n'aboutit pas, mais de faire cette demande, cette démarche? Est-ce que vous qui connaissez ces mécanismes?
Encore une fois, j'ai pu connaître ce qui était ces mécanismes il y a 22 ans. Je ne peux pas prétendre savoir ce... Mais dans tous les cas, il peut vouloir utiliser un droit ou s'il considère qu'il ne veut pas perturber sa vie en détention, ne pas le faire. Je n'en sais rien.
Seul l'avenir dira donc si Guy Georges, une vie en détention, changera d'avis. Reviendra-t-il sur le serment qu'il avait fait lors de sa condamnation de ne jamais demander à sortir, de s'infliger lui-même cette peine que peu de détenus imaginent, la prison jusqu'à la fin de leur jour. Merci beaucoup, Frédéric Ponce, avocate, ex-avocate de Guy Georges, et à vous, Daniel Zaguri, d'avoir été les invités de l'heure du crime ce soir sur RTL. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, à Marc Bisset de l'avoir réalisée. Et puis un immense merci à vous toutes et tous qui suivez l'heure du crime. Un très très grand merci pour votre fidélité.